Que la Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin
avec Catherine.
Catherine.
Catherine,
le matin.
Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Quand je dis qu'il est clair, vous allez l'entendre. Il a été clair avec Richard Labbé en fin de semaine dans la Presse Plus. Pour lui, c'est clair, les bagarres doivent être bannies du hockey. Bonjour, Dr. Hedenberg.
Oui, bonjour.
Donc, de ce que je comprends jusqu'à maintenant, on n'en fait pas assez. Vous, là-dessus, c'est clair, il faut qu'on enlève ça tout court. Là.
Tout à fait, parce qu'il y a des conséquences pour les jeunes. Il y a des conséquences à plusieurs égards. Bon, on va parler d'athlètes professionnels. Ça, évidemment, c'est une chose. Mais après ça, lorsqu'on parle du junior majeur, mais c'est des jeunes d'ici qui sont à l'université et qui sont aux études pour la plupart. Et je traite certains patients actuellement qui ont dû quitter leurs études à la suite de bagarres qui ont laissé des conséquences, des séquelles importantes mm-hmm. pour eux. Et faut se rappeler que c'est un sport. Faut se rappeler que l'amateur a beau aimer là, l'énergie, puis tout, dans le fond, l'engouement qui est associé à cela. Il faut réaliser que c'est des humains derrière cela qui peuvent vivre des conséquences de ces gestes.
Richard Labbé, vous posez la question, Dr. Hedenberg, que je vous la pose parce qu'on fait de la radio, je veux que les gens vous entendent. Donc, vous êtes commissaire de la Ligue nationale. Le premier geste que vous posez, c'est quoi?
Comme je disais, je suis commissaire. Mon intérêt principal, c'est la santé, la sécurité des joueurs. C'est évident qu'on élimine la bagarre, qu'on élimine les coups sournois. On sait en fait que un pourcentage là, significatif des commotions cérébrales, environ 40 à 50 des commotions cérébrales, sont causées par des gestes de violence. Imaginez, on pourrait rendre ce sport, qui est un sport magnifique, beaucoup plus sécuritaire. Et ça aussi, ça rassurerait beaucoup de parents, parce qu'on parle de bagarres là, et de coups sournois à la ligne junior majeure, ligue junior majeure. Mais ça se passe aussi au niveau bantam puis au niveau midget, et elle est surtout là ma préoccupation.
Ouais.
Vous savez, l'image qui est envoyée là par les athlètes professionnels aux jeunes, les jeunes qui veulent reproduire les comportements qu'ils voient, ça aussi, ça a des conséquences graves.
Je vais faire référence à ce qu'on retrouve dans l'article parce que Richard Labbé, il faisait référence et moi-même, je me suis posé la question puis j'implique Serge là-dedans parce qu'on se souvient tous de la commotion qu'a subi Paul Byron à la fin de la saison du Canadien. Bon, évidemment, au départ, ils nous disent pas c'est une commotion, mais tout le monde sait que c'est une commotion. Une semaine plus tard, il revient. Donc, quand vous voyez ça, c'est quoi votre réaction comme médecin?
Je suis pas médecin, je suis docteur en
neuropsychologie. Oui, je m'excuse, oui.
mais pas de problème. Écoutez, pour moi, c'est inconcevable. Et on voit ça régulièrement.
Ouais.
Même lorsqu'on regarde là, les fameux protocoles de gestion des commotions cérébrales qui sont produits par des gens, par des professionnels qui travaillent pour les équipes professionnelles, qui sont produits par des médecins, par des neuropsychologues, par des thérapeutes du sport, qui sont souvent embauchés par ces équipes-là. Ces protocoles-là sont beaucoup trop rapides lorsqu'on voit que des études nous indiquent que à la suite d'une commotion cérébrale, même lorsque l'athlète ne présente plus ou ne rapporte plus de symptômes, ne présente plus de signes de commotion cérébrale, et ça prend environ 1 à 2 semaines, le cerveau, lui, est toujours enflé. On a toujours une augmentation de la masse cérébrale qu'on peut voir là, en imagerie. Donc, ça nous dit que le cerveau n'est pas tout à fait remis. Et même lorsque l'athlète n'a plus de symptômes ou ne présente plus de signes au repos, on sait qu'à la suite d'un effort physique plus intense, les symptômes peuvent revenir, alors que ces athlètes-là sont souvent testés au repos, évalués au repos pour déterminer le retour au jeu. Alors, évidemment, après une semaine, cela n'a aucun sens lorsqu'on sait que le cerveau peut en prendre 3 à 4 semaines pour s'en remettre.
Justement, selon vous, la durée minimale d'une personne, peu importe le type de commotion cérébrale, devrait être de combien?
Écoutez, encore là, c'est du cas par cas, mais je peux pas m'imaginer un retour au jeu avant 2 à 3 semaines pour un adulte et même plus pour un jeune.
Okay.
Alors qu'on sait, et j'espère qu'un jour que les gens prendront conscience de ces études-là qui nous indiquent, là, ces études en imagerie qui nous indiquent que le cerveau n'est pas tout à fait remis après 2-3 semaines. On a des études en imagerie par résonance magnétique, par spectroscopie, aussi par potentiel évoqué, donc des électroencéphalogrammes qui nous indiquent aussi que le cerveau prend beaucoup plus de temps à s'en remettre qu'on le croit.
Pensez-vous que la proximité entre les joueurs, puis là, je reviens à la Ligue nationale, tu sais, les médecins font partie intégrante de l'équipe, connaissent très bien les joueurs. Pensez-vous que cette proximité-là entre le joueur et le médecin, ça peut jouer, c'est-à-dire, tu sais, le gars qui est un peu insistant, hey, docteur, là, moi, je veux y retourner, là, la fin de saison, il faut faire les séries. Pensez-vous que ça peut jouer, ça?
Tout à fait. Puis c'est assez connu dans le domaine.
Oui.
Comme je disais dans l'article, comme je disais à M. Labbé, j'ai un médecin qui m'a contacté, qui était déchiré, qui me disait mais je fais quoi dans une situation où moi je suis fan du sport, je suis fan de l'athlète, on est dans les séries, je veux qu'il retourne au jeu. Et en effet, c'est des gens qui travaillent ensemble. Alors ils se sentent pris entre l'arbre et l'écorce. Et c'est également une situation qui doit être changée. Et surtout les médecins.
Ouais.
Ils aiment travailler pour ces équipes-là.
Ben oui.
Alors, le médecin qui trop souvent met son pied à terre et dit « Regarde, ton joueur, il ne retourne pas », il sait qu'il risque de ne pas être embauché la saison suivante.
Ouais. En terminant, en tout cas, l'article m'a appris ça en fin de semaine. Serge, peut-être que tu le savais, je ne savais pas que la Ligue nationale autorisait la présence d'observateurs dans l'aréna, donc des gens qui sont attentifs aux signes. Ça se fait, Dr. Lambert, depuis quoi? Cette année, c'est nouveau, ça?
Non, je crois que ça fait environ 3 ans, en fait.
Okay.
Et c'est quelque chose qui était... ils ont subi beaucoup de pression afin d'avoir ces observateurs-là. On appelle ça des spotters, des gens alors qui observent le jeu afin de veiller à ce qu'un athlète qui aurait subi une commotion cérébrale soit retiré du jeu. Toutefois, bon, on peut avoir certains doutes sur les critères qu'ils utilisent pour retirer les athlètes du jeu. Et après cela, bon, il y a toujours le processus de retrait des athlètes qui ont subi un impact important. On sait, même en absence de signes et de symptômes, peuvent avoir subi une commotion cérébrale.
Mm-hmm.
Et il est là l'enjeu, parce que les premiers signes et symptômes d'une commotion cérébrale pour environ un tiers des athlètes peuvent arriver jusqu'à 1 à 2 journées plus tard. Puis ça, c'est important pour que les parents doivent être informés de cela. Quand le coup est important, plus important qu'à l'habitude, que le jeune a l'air sonné, même s'il dit qu'il se sent bien, qu'on ne voit pas de signe, on ne prend pas de risque, on le retire, on le garde sous observation pendant à peu près 1 à 2 journées.
Dr. Lambert, c'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir guidés là-dedans. Je pense que les gens ont écouté ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup.
Merci, Mme Gaudreau. Bonne journée.
Merci, au revoir. Dave Lambert, neuropsychologue, professeur titulaire au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, un des plus intéressants dans son domaine.